Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, métier.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
La révolution par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire? Que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutus par ange,
hein ? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de poste. C'est tant que je pas toucher. C'est quand même curieux. 100 fois, tu dis, jamais je tombe en panne.
Merde, on a
aujourd'hui, mercredi 9 décembre 2020, c'est la Sainte Article 24. Sainte Article 24 est le saint patron des articles de la loi Sécurité Globale qui font polémique. Enfin, jusqu'à ce qu'il soit retiré pour faire plaisir aux journalistes. Parce que les forces de l'ordre sont régulièrement prises à partie par une foule haineuse. Parce que nos policiers sont devenus les pauvres victimes d'une population hostile principalement composée de gilets jaunes sans dents et de cégétistes violents. Parce que nos agents ne savent plus quoi faire face à l'animosité des petits black branleurs issus de leur propre rang et qui blessent involontairement leurs collègues en uniforme. Et parce que nos poulets vivent assez mal le ressentiment incompréhensible des jeunes en scooter amateurs de rodéo et des bronzeux de banlieue lointaines que la République ne peut plus souffrir, Saint Article 24 a été canonisé par Jean-Michel Fauvergue, rapporteur de la loi Sécurité Globale, ancien para, ancien des stup, ancien de la PAF, ancien chef du RAID, mis en retraite par sa direction, et passé à la Macronerie en marche en 2017. Le principe de cet article 24 est simple. Si des flics sont identifiables sur la vidéo que tu as faite d'eux en train de tabasser un gars, ou une gonzesse, de ce côté les flics ont toujours été pour la parité, et que cette diffusion est effectuée dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des agents,
tu nous as fait un doigt d'honneur, c'est ça ?
Paf ! Un an de prison et 45 000 euros d'amende. Putain, ils ont raison, Barbier, Delahousse, Pernaud, Bourdin et Salamé. C'est chaud, journalisme. D'où la solution du floutage des gueules des policiers. Et du floutage de gueules, tout court. Et en se focalisant sur cet article 24, il ne sera jamais question des articles 1 à 6 qui donne plus de pouvoir aux beaufs de la municipale, de l'article 20 bis qui facilite l'accès aux images des caméras des halls d'immeubles, de l'article 21 qui autorise la transmission des images en temps réel des caméras piétons, de l'article 22 sur la généralisation de l'utilisation de drones pour surveiller l'espace public, ou encore de l'article 25 qui autorise les flics, en dehors de leur service, à conserver leurs armes quand ils vont dans les établissements recevant du public. Et là, on voit bien la scène. Allez Robert, remets-moi Ricard avant que... Désolé Robert. L'esprit de la loi sécurité globale en général et de cet article 24 en particulier, c'est bien de protéger ceux qui nous tabassent. Les protéger des agressions quotidiennes qui leur minent le moral. Il faut penser à ces pauvres condés émotionnellement traumatisés. Il faut les soutenir dans cette épreuve qu'on appelle le blues des policiers. Il faut bien que les flics aient un moyen de faire sortir ce qui leur pèse tant.
Allez, allez, grenade, allez !
De lutter contre les symptômes de ce mal-être, comme les insomnies, les cauchemars, la fatigue, les sautes d'humeur, la peur,
allez, allez, grenade, allez !
Et surtout, quand de grands nègres agressifs et de jeunes ensauvagés se ruent sur les fragiles forces de l'ordre.
Oh, ils me tabassent, putain, mais ils me tabassent ! Oh, mais ils me tabassent, quoi !
On comprend parfaitement alors que Darmanin, entre la dissolution du CCIF et une action massive contre 76 mosquées juste le jour où il aurait dû se rendre à la convocation des juges qui instruisent son procès pour viol, on comprend alors qu'il préfère s'occuper de la santé mentale de ses pandores. Aujourd'hui, mercredi 9 décembre, le soleil s'est levé, convoqué par le DRH et l'Inquisition, l'ascenseur monte vers la terrasse. Il s'est couché livide, pas loin des compresseurs sous les paillettes mauves, et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche du campus, le campuslille.com et le DAB+. Ce soir, en seconde partie d'émission, on retrouvera le philosophe Georges Gastaud à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de Friedrich Engels. Mais auparavant, petit retour dans les rues de Lille, c'était ce samedi 5 décembre à l'occasion de la manif contre le chômage et la précarité et la misère. Des sons pris par notre camarade Cédric de l'Union Locale CGT de Tourcoing et par les salles rouges de l'émission On passe au rouge qu'on retrouve le lundi sur Radio Campus à 19h. C'est l'heure de le mettre.
Tu fermes ta gueule!
Tu disais quoi?
Non, j'ai rien dit, c'est lui!
Lâche, dégage, dégage! Casse-toi! Casse-toi, putain! Casse-toi!
Mais
j'ai rien fait, moi!
Dégage!
Bonjour les cartes. T'es encore dans ton plumard, on te réveille à grands coups de gyrophare, lui c'est Francky, moi c'est Bernard. Même ma mère m'appelle connard, à part tirer des pervenches, y'a vraiment pas grand chose qui me branche. J'aime beaucoup Clint Eastwood et il préfère Steven Seagal, mais on s'entend vraiment très bien quand il s'agit de mettre des mandales. Grâce à nous tu pars en vacances à Fleury mais Rogis, je t'enverrai une carte postale de ma villa de Nice.
On est flics de la barque, on pique, on chute, on te fout des claques, on est les kings de la salle, crispant de pneus. Tu dis oui monsieur, quand on te demande tes papiers, tu baisses tes yeux, quand on te fout à Walpé. On est les flics de la barque, on pique, on chute, on te fout des claques, on est les kings de la salle, crispant de pneus. Tu dis oui monsieur, quand on te demande ton chichon, tu baisses tes yeux, quand on te prend ton pognon. On est les rois de l'arnaque, les dépouilleurs de dealers, on arrondit nos fins de mois en faisant respecter la loi. Tu te prends pour Pablo Escobar, mon surnom c'est Paul Ricard. T'es fier en Armani, Louis Vuitton en bandoulière. Si t'aimes les marques on va t'en faire coup de tête, manchette, balayette. Ne nous prends pas pour les trous de balles de la police municipale. Tu connais le refrain cousin, au poste c'est moi le parrain. Alors respecte ta mère avant de vouloir niquer la mienne. Manchette, balayette, j'te pique ta boulette.
On est flics de la barque, on pique, on chute, on fout des claques. On est les kings de la salle, crispant de pneus. Porti claque, tu dis oui monsieur, quand on demande tes papiers, tu baisses tes yeux, quand on te fout à Walpé. On est flics de la barque, on pique, on chute, on fout des claques. On est les kings de la salle, crispant de pneus. Porti claque, tu dis oui monsieur, quand on demande ton chichon, tu baisses les yeux, quand on te prend ton pognon.
Les casseurs, c'est mon 4 heures, je les casseurs à coups de passion. Pour un pas besoin de te faire beau, je parfume à coups de lacrymo. Un coup de gnole, un coup de flash-ball, sur mon ton fâche, te pète les dents. Tu vas bouffer du tofu dans ton beau survêtement. Et quand je vois le montant de ma retraite, oh putain, j'ai encore plus envie de t'exploser la tête. Fuck les voleurs, fuck les dealers, nique la racaille.
On est les flics de la bac, on pique, on chute, on te fout des claques. On est les kings, la salle, les sports de pneus.
Tu dis oui, monsieur, quand on demande tes papiers. Tes yeux, quand on te fout à Walvé.
On est flic de la bac, on pique, on chute, on te fout des claques. On est les kings, la salle, les sports de pneus. Toi qui claques,
tu dis oui, monsieur, quand on te demande ton chichon. Tu baisses les yeux, quand on te prend ton pognon.
On est flic de la bac, on pique, on chute, on te fout des claques. On est les kings, la salle, les sports de pneus. Toi qui claques,
tu dis oui, monsieur, quand on te demande tes papiers. Tu baisses les yeux, quand on te fout à Walvé.
On est flic de la bac, on pique, on chute, on te fout des claques. On est les kings, la salle, les sports de pneus.
Monsieur, quand on te demande ton chichon, tu baisses les yeux quand on te prend ton pognon.
Respect à tous les mecs de la BRB. Big up à la deuxième DPJ. Chose à la pape dans les commissariat de Grilly, commissariat de Gany, commissariat d'Ebris.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Je suis avec Jean-Paul de l'Union départementale, Jean-Paul Delesco de l'Union départementale CGT Nord. C'est quoi les revendications de cette manifestation du 5 décembre ?
Alors les revendications, premièrement c'est un appel sur contre la sécurité globale. Nous on répond sécurité sociale contre la loi Darmanin. La proposition de loi Darmanin, ça c'était l'appel de 13h30 et 14h30, c'est l'appel annuel des précaires et privés d'emploi où à la CGT on a décidé d'en faire un appel de l'ensemble des travailleurs puisque pour nous les privés d'emploi et les précaires sont des travailleurs.
Quel est le lien entre ces revendications ?
C'est l'emploi, les salaires, la répartition des dividendes. Bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, on voit que l'année Covid 2020, finalement, il n'y a jamais eu autant de redistribution des richesses chez les riches. Pendant ce temps-là, les pauvres, eux, n'ont plus d'emploi. Donc, on a besoin de répartition des richesses et on a aussi besoin d'une loi aujourd'hui qui sécurise et qui interdit les licenciements. Et dans l'exemple type, par exemple, de Bridgestone aujourd'hui, mais aussi des entreprises pharmaceutiques, on a aussi besoin de rediscuter de renationalisation dans le paysage. C'est Macron qui disait le jour d'après, pas avant le jour d'avant. Nous, on dit le jour d'après mieux que le jour d'avant. Si c'est pour revenir à pire que le jour d'avant, c'est pas la question.
Quel lien vous faites là ? Est-ce que le gouvernement
Bien sûr, il se dote d'une muselière. Son rôle, son but, c'est de tenter de museler le mouvement. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il s'amplifie et de créer le rapport de force nécessaire pour gagner. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin dans le monde du travail, c'est gagner.
Les derniers sondages, alors évidemment, c'est toujours à prendre avec des pincettes, semblent montrer que le président de la République est historiquement populaire. Là, il est sur la fin de son mandat, on n'a jamais vu ça. Comment ?
Populaire.
Ouais, populaire, les sondages disent qu'il est à 45-49%.
Bah je sais pas, j'ai jamais été sondé en tout cas moi. T'as été sondé toi ?
Moi pas encore.
je connais beaucoup de camarades qui n'ont jamais été sondés. Donc les sondages, on en fait faire ce qu'on veut. C'est même le but d'un sondage quand c'est l'État, le gouvernement qui le maîtrise. Nous, notre rôle, c'est pas de suivre les sondages, c'est suivre les sondages, mais du monde du travail. Des travailleurs, de ceux qui sont dans les usines. Et aujourd'hui, le sondage dans les usines, il dit pas ça du tout.
Là, la manifestation, on voit beaucoup, pas mal de gens qui courent. Là, ça va bien se passer. D'habitude, voilà, on connaît la différence entre les manifs gilets jaunes et puis les manifs syndicales.
Ça va bien se passer, c'est un mix des deux.
Ouais.
Donc ça va aller très bien. Le parcours est long, hein, jusqu'à la préfecture. Donc normalement, ça devrait bien se passer quand même.
c'est qu'on peut pas trop compter sur la police, en, notamment en manifestation, pour protéger les manifestants. Pourtant,
mais elle est plus là pour les casser que pour les... Attends, aujourd'hui, on parle pas de gardien de la paix, on parle de force de l'ordre. Donc on sait que le rôle aujourd'hui de la police, c'est pas de garder la paix, mais c'est bien de faire du maintien de l'ordre. Donc on sait très bien que ça peut déraper à tout moment.
Le service de, d'ordre de la CGT, il est prêt? Vous avez les moyens, vous, de sécuriser comme ça une manif, là? Parce qu'on est, on doit être 10 000, là, aujourd'hui, un truc comme ça. Hein.
On n'a pas, on n'a jamais moyen de sécuriser l'ensemble de la manif. Donc notre rôle, c'est surtout de sécuriser la tête de manifestation et de faire en sorte, au moins, qu'on puisse finir le parcours.
Et la police partout! Et la police partout!
Il y a un certain nombre de lois, de choses que fait le gouvernement qui est complètement hallucinant. La loi de sécurité globale, tout ce qui se passe aussi par rapport à l'emploi. Le contexte actuel avec la crise sanitaire qui est prétexte à pas mal de choses aussi. C'est un ensemble en fait. C'est, d'un côté, on attaque les droits sociaux, on ne permet pas à ce que l'emploi, enfin, il y ait de l'emploi pour tout le monde. Et en même temps, on durcit au niveau de la répression de la police pour que tout ça passe et que le peuple ne puisse pas contester ou en tout cas ait moins de visibilité.
Selon vous, là, ce fameux article 24, il n'est pas là pour protéger la police?
Il sert juste à couvrir les dérives policières, justement, les violences policières, à faire en sorte qu'on les voit moins, qu'elles soient moins visibles, et puis pas vu, pas pris. Hein.
Comment vous comprenez ça, qu'il y ait autant de prolétaires, finalement, autant de travailleurs, quoi, qui soient derrière Macron, et qu'est-ce que vous avez à leur dire?
Enfin, moi, j'expliquerai ça comme... Je pense que les gens ont peur, que tout est fait pour leur faire peur, et que du coup, Macron, peut-être, il se positionne aussi en personne qui va apporter les réponses, la sécurité, le cadre. Mais en fait, pour moi, c'est une fausse question, c'est pas le vrai combat, c'est pas... Le gouvernement, il utilise les peurs des gens, il les instrumentalise pour arriver à ses fins et servir ses intérêts. Et je pense que c'est pas du tout le...
C'est les pas gens ont la trouille.
Bah, je pense, ouais, avec le contexte sanitaire, etc. On instrumentalise aussi pas mal les questions liées au terrorisme et ça crée un climat de peur et le gouvernement s'est bien surfé sur ça.
Des grenouilles vivantes dans de l'eau bouillante, elles se débattent, elles se débrouillent pour se sauver d'une mort violente. Mais tentons donc une expérience, allons-y petit à petit, histoire de les mettre en confiance. 1, 2, 3, 4, c'est parti.
L'eau était fraîche, elle était bonne, elle se sentait bien dedans, pas une goutte de carbone, un grenelle de l'environnement.
Elles en oubliaient, c'est mignonne. Le décor un peu empressant.
C'est sûr, au début ça étonne. Le métal gris c'est déprimant.
On leur a laissé une échelle pour y grimper socialement.
Les humains sont vraiment cruels
et les batraciens trop confiants. Pour améliorer l'esthétique,
quelques cailloux multicolores, un panier
en matière plastique,
un peu de faune,
un peu de flore. Plein de des grenouilles qu'on plonge dans une cocotte. Bien que l'eau chauffe ses andouilles, s'endorment vautrées dans la flotte. Quand l'eau tiédit, ces créatures se disent:
voilà le printemps,
comme on le fait dans la nature.
Se mettent à faire des enfants,
mais il fait chaud, c'est épuisant.
Des bulles émergent à la surface qui scintillent comme des écrans.
Voilà, dis pas que c'est gourdasse.
Hypnotisé par par la fumée, asphyxiés par les colorants,
ne peuvent déjà plus bouger,
victimes d'un réchauffement.
Et quand enfin l'eau pousse, elle conne, réalise mais un peu tard
que la force les abandonne,
elles agonisent sans gloire. Petit à petit,
réforme par-ci,
réforme par-là,
ils nous veulent dociles, affaiblis. On a le droit de se balader entre république et nation, et le lendemain on retourne bosser. Au bout du compte on tourne en rond. On est déjà dans la cocotte, l'eau a commencé à chauffer.
Quand est-ce que ça va péter?
Radio Campus Lille 106,6. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
On va droit au fascisme avec les nouvelles lois qui nous pondent là. Donc j'attends. J'attends que le mouvement populaire se réveille. Le travail est libéralisé. Enfin, Putain, elles sont chiantes des questions. Je suis pas une intello. Voilà, le travail, on est précaire, on n'a pas des gros salaires, on en a marre. On a été gilets jaunes, donc maintenant on continue.
Et quel rapport avec la répression policière ?
J'imagine qu'il y a de la répression parce que justement ils veulent nous asservir au travail et nous précariser et continuer à démolir ce qu'on avait acquis après la guerre. Ça, c'est bien ça.
S'il fallait qu'une seule
Déjà je suis pas bien.
Dans ce mouvement social du moment, s'il fallait une seule revendication pour vous, ça serait laquelle ?
Je sais pas, Macron démission, installation du socialisme. Ouais, tant qu'à faire.
La dernière question, je vais vite achever.
Non, mais de toute façon, tu me stresses.
Macron, il a quasiment 50% de popularité, là. C'est historique, on n'a jamais vu ça sur une fin de mandat.
Ah bon, c'est vrai ?
C'est incroyable. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de prolétaires, il y a plein de travailleurs qui soutiennent Macron. Comment vous comprenez ça ?
Je suis pas sûr, je sais pas qui fait les sondages, mais je suis pas sûr qu'il y ait plein de prolétaires qui soutiennent Macron. En tout cas, pas ceux que je fréquente.
Macron nous fait la guerre, et sa police aussi. Mais nous, on est des terres à bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais nous, on est des terres à bloquer le pays.
Pourquoi vous êtes venu à la CGT de Tourcoing ?
On vient parce que déjà, on a l'obligation d'être présent. Et parce que la période qu'on traverse, elle est grave. Et donc, on est dans une bascule autoritaire. Pour dire clairement, on est dans une voie de fascisation. Et la social-démocratie nous prépare à la venue du. Comme dans son. Donc nous prépare à la venue du Rassemblement National, donc de l'extrême droite au pouvoir. Et donc on est là pour tout un ensemble de lois, y compris les lois liberticides et ce qui font aussi, qui est l'aboutissement aussi du détricotement de toutes les conquêtes sociales, y compris des victoires ouvrières et des droits des travailleurs à être représentés, des institutions représentatives du personnel qui ont été dépecées aussi par Macron, par Sarkozy, par Hollande, de façon successivement, et donc ils sont dans une continuité. Et si on n'est pas là, bon, au moins on aura eu le mérite d'être là et d'être contre. Et le but c'est de construire la lutte et de s'adapter à la réalité de la répression qu'on nous impose.
Quel lien tu fais entre les deux mots d'ordre de défense du travail aujourd'hui et contre la sécurité globale? C'est quoi le lien?
Le lien, c'est que pour faire taire l'arrêt, le problème, c'est que, en fait, le lien, c'est que dans la réalité, le lien du travail, le travailleur, c'est la variable d'ajustement du capital. Donc, pour Macron, pour servir les gens qui l'ont élu, donc les multinationales, les grands patrons, pour leur rendre l'appareil, il fait une politique en leur faveur uniquement. Donc, il gouverne pour une minorité au détriment de la majorité. Et Macron, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se dote de tous les éléments politiques et judiciaires et tout ce qui va avec pour justement réprimer ces futures contestations qu'il aura créées lui-même. Et donc c'est en ça où on peut affirmer et constater que c'est un pouvoir autoritaire et qui glisse vers une dictature.
S'il fallait une seule revendication, un seul mot d'ordre pour le mouvement social du moment, ça serait quoi pour toi, à titre personnel?
Révoltez-vous pendant qu'il est encore temps.
Quel discours on peut tenir à ceux qui sont derrière Macron, aux prolétaires qui sont derrière Macron?
Je pense pas qu'il y en ait des prolétaires qui sont derrière Macron. Entre nous, bon, il y a une minorité de la grande bourgeoisie et de la bourgeoisie tout simplement qui défend ce qu'elle a à défendre. Et elle le défend, et elle a raison de le défendre, d'un point de vue de combat de classe, parce que ce qu'elle a, elle l'a volé aux travailleurs. Et donc forcément, comme ils se sentent coupables d'avoir dépouillé et agrandi la pauvreté dans le pays, et ben en fait, ils ont rien trouvé de mieux que de se cacher derrière la police. Hein, on l'a vu récemment quand on a été au siège de chez Auchan, il y avait les forces de l'ordre qui étaient à l'intérieur du groupe Auchan pour les protéger des méchants de la CGT qui étaient venus revendiquer. On était quand même pas mal, on était environ 300-400. Et donc on a bien vu concrètement que la police était l'instrument de protection de cette bourgeoisie financière qui impose la pauvreté à coup de matraque.
Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crépines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Écoute, conseil, camarade. Écoutez la radio attentivement, le lundi à 19h. On passe au rouge sur Radio Campus 106,6 afin d'éviter tout désagrément pour ta santé et celle de tes enfants.
Ce qui se passe, c'est que ce pays est en train peu à peu de se réveiller. Tu vas le faire remarquer.
Tout à fait.
Parce que là, il va nous endormir. Mais ce qui se passe, c'est que le capitalisme, qui est dans une de ses phases habituelles de crise, connaît une crise encore plus profonde que jamais. Que cette crise va continuer d'entraîner des milliers et des milliers de licenciements, qu'elle va entraîner des millions de gens davantage dans la galère, dans la précarité, dans la misère, qu'on est en train de casser dans le même temps l'assurance chômage, qu'on est en train de casser la sécurité sociale et qui s'apprête à revenir avec leur fameuse réforme des retraites. Donc, en vérité, ce qui est en train de se passer, ce n'est qu'un début. Et nous, on a peut-être un message particulier à la CGT, à lancer à ceux qui nous dirigent, à ceux qui prétendent nous gouverner, à ceux qui nous exploitent tous les jours, car ce sont les mêmes. Ce gouvernement est au service exclusif du MEDEF. Nous avons peut-être un message à leur lancer. Il est le suivant. Bourgeois, tremblez, ça fait que commencer. Eh bourgeois, tremblez,
ça fait que commencer.
Eh bourgeois, tremblez,
ça fait que commencer.
Eh bourgeois, tremblez,
ça fait que commencer.
Eh bourgeois, tremblez,
ça fait que commencer.
Bourgeois, tremblez,
ça fait que commencer.
Bourgeois, tremblez,
ça fait que commencer.
Eh bourgeois, tremblez,
ça fait que commencer.
Eh bourgeois, tremblez,
ça fait que commencer.
Bourgeois, tremblez,
ça fait que commencer.
Bah, une fois qu'on a dit ça, bon, après, ce qu'il s'agit de faire, c'est que chacun de ceux qui sont ici, de celles et ceux qui sont ici, a une responsabilité particulière. On ne peut pas laisser le reste du pays, nos proches, nos familles, nos amis, les gens qu'on croise tous les jours, au boulot ou dans le quartier, on ne peut pas les laisser en dehors du combat. On a tous une responsabilité particulière. C'est de faire comprendre, c'est de convaincre autour de soi qu'il n'y a pas d'autre solution que dans la lutte, que dans le combat. Alors bien sûr, le combat, c'est comme aujourd'hui, être nombreux dans la rue, être nombreux à sortir nos revendications. Mais ce combat, c'est tous les jours, et c'est d'abord pour ceux qui travaillent encore, le combat dans l'entreprise, le combat syndical, pour faire reculer pied à pied sur le terrain les prétentions des patrons qui en ce moment, avec des accords soi-disant de performance collective, avec des plans soi-disant de sécurisation de l'emploi, sont en train de nous la mettre à l'envers, de mettre des millions de familles dans la merde, comme à Bridgestone, à Béthune, et comme en tant d'endroits dans ce pays, face à cette saloperie, face à ces projets infernaux, nous devons résister tous ensemble, au-delà des étiquettes, nous devons nous organiser, nous ne pouvons pas simplement résister au coup par coup, entreprise par entreprise, ou manifestation après manifestation, nous avons besoin d'une organisation populaire de masse, d'une organisation qui soit en capacité de peser face au camp d'en face, parce qu'il y a un camp en face, et celui-ci est organisé. Ce camp porte un nom. Quand on parle de lutte des classes, il y a donc bien deux classes. Tous ceux et celles qui sont ici, dans la rue aujourd'hui, font partie de la classe des salariés, des exploités. Et bien en face, il y a les exploiteurs, les bourgeois. Cette classe sociale ne lâchera rien. Et elle est même prête à mettre en avant un gouvernement dictatorial, un gouvernement fasciste, pour nous écraser définitivement. Ne vous faites pas d'illusions, ne vous faites pas d'illusions. Macron n'est pas contre Le Pen, Macron nourrit Le Pen. Et il suffit de voir aujourd'hui tout ce qui se passe à l'extrême droite, où des gens de soi-disant droite républicaine sont en train de rejoindre Le Pen, que ce soit la mère ou la nièce. Quand on voit que des cadres de Dupont-Aignan sont en train de se... Ils sont en train de préparer un véritable gouvernement de choc, un gouvernement de combat, parce que eux ils savent, même si nous ne le savons pas encore, eux, ils savent que la résistance est en marche, que rien ne pourra l'arrêter. Nous sommes 5 000 aujourd'hui, nous serons 10 000 la prochaine fois, nous serons 100 000 la prochaine fois, et ceux dans toute la France, nous serons des millions. Alors, bourgeois, tremblez.
Ça ne fait que commencer. Eh bourgeois, tremblez.
Ça ne fait que commencer.
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 Bourgeois, tremblez, ça ne fait que commencer. Bourgeois, tremblez, ça ne fait que commencer. Bourgeois, tremblez, ça ne fait que commencer. Bourgeois, tremblez, ça ne fait que commencer. Ils ne sont forts que parce que nous sommes à genoux. Alors, répétons-le tous ensemble ici qui marchons. Nous sommes debout. Et souvenons-nous que nous ne sommes pas les premiers à nous mettre debout et que dans l'histoire d'autres l'ont fait avant nous et qu'ils ont gagné. Parce qu'on n'est pas là simplement pour s'agiter, on est là pour gagner. Il va falloir faire reculer ce gouvernement. Alors, debout, debout, debout.
Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les études ne sont guère nécessaires pour les hommes que l'on dit ordinaires. 4% de fils d'ouvriers à l'université, mais pour voter, même par une croix à signer, on vous incitera. Et si jamais trop nombreux vous refusez d'y aller, un jour, si vous n'y prenez garde, on vous y conduira par aiguillon électrique, à bétail pour aller plus vite, comme en Amérique. Mais c'était à Selma, Alabama. C'est pas notre chair, c'est pas notre sang, on s'en fout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les étudiants ont manifesté, par la police, on subit des sévices. Mais c'était à Lisbonne, au Portugal. Mais cette fois c'était leur chair, c'était leur sang. Les bourgeois de la ville ont renié publiquement 40 années de gouvernement. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans nous, personne ne peut rien du tout?
Je suis avec la maman de Selom, hein, que les Lillois et ceux du Nord, et puis d'ailleurs aussi connaissent bien, on connaît... votre combat après ce qui s'est passé pour votre fils là, qui a été acculé hein, sur une voie ferrée.
Tout à fait.
Et poussé à la mort, probablement hein, par une pression policière. Quel est le sens de votre présence dans cette manifestation du 5 décembre?
Nous on est là pourquoi? Parce qu'effectivement si on avait une petite vidéo, on aurait pu prouver par bus B que la police était bien présente. Parce qu'au départ il va de soi qu'ils ont dit comme quoi elle n'était pas présente. Le procureur a affirmé qu'elle n'était pas présente. Et l'avocat a tapé du pain en disant elle était bien, on avait des preuves en fait. Donc le fait d'avoir nié, on aurait eu des preuves de vidéo, ça aurait été bien sympa. Si là maintenant on nous refuse de filmer, en fait on laisse la police faire en toute impunité ce qu'elle veut finalement.
Ah ouais, vous n'avez pas eu de chance parce que toute la technologie a été défaillante dans cette histoire.
C'est ça.
Puisque
c'est...
toutes les puces, tous les GPS ont été éteints à ce moment-là.
C'est ça. Hein, apparemment il y a eu un bug, il n'y a aucune machine qui fonctionnait, la géolocalisation elle était en panne en fait. Comme par hasard ce jour-là en fait, oui. Il n'y avait plus rien qui pouvait prouver quoi que ce soit en fait.
Cette manifestation, en gros, il y a deux mots d'ordre, il y a le travail, et puis il y a la police, la sécurité. Est-ce que vous faites un lien entre les deux?
En fait, il faut être réaliste. Hein, quand il y a des familles qui sont dans la précarité, comme beaucoup, parce qu'avec ce qui se passe actuellement, qu'est-ce que font les gamins? Ils se sont un peu livrés à eux-mêmes, parce que les parents, ils se démènent comme ils peuvent. Et finalement, ils sont dans les rues, et finalement, ça finit comment? Face à face avec la flicaille. Et ça commence à bien faire, en fait. Je pense que là, maintenant, il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour les conneries, pour tout ce qui se passe. Le peuple a le droit de savoir et le peuple a le droit de vivre librement et sans aucune pression de la police et du gouvernement en fait.
Dans le mouvement social actuel qu'on vit en France, s'il devait y avoir qu'une seule revendication pour mettre tout le monde d'accord, ça serait laquelle pour vous?
Je vais être censuré, je le sens. Il faut faire sauter le gouvernement. Et stop avec ces histoires de « on donne tout le pouvoir à un seul gars » quoi en fait. Il faut arrêter ces bêtises. faut arrêter. Il n'y a pas un seul gars qui peut prendre des décisions pour tout le monde, parce qu'apparemment, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on en a marre de toutes ces bêtises. Il faut arrêter. On a essayé avec la royauté, finalement, ça a fini guillotiné. On a viré tout ce qui était chrétien, tout ça. Avec tout ce qui est gouvernement, bah, ça se passe mal, il faut qu'on trouve un autre système. Ce système-là, actuellement, il ne fonctionne pas du tout.
Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui soutiennent encore Macron et son gouvernement?
J'ai à dire qu'à mon avis, quand ils ont fait leur sondage, ils sont pas allés dans les quartiers populaires, quoi. Ils sont restés concentrés sur leur sphère, en fait. Ils n'ont pas cherché à comprendre plus loin. Ils négligent les gens, les petits peuples. Ce qu'il faut savoir, c'est grâce à tous ces gens-là, à tous ces ouvriers, à tous ces gens qui font le ménage, qui font tourner le pays, que le peuple tourne. C'est peut-être à eux qu'il faudrait demander, en fait. Pas à tous les gens qui les entourent, qui font rien du tout de leur vie, finalement, juste à soutenir un président qui ne vaut pas le coup.
Et la police partout! 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 Et la police partout!
Salut Roro!
Ouais, bonjour mon camarade!
Je suis avec Roland Blanpin, de la CGT.
Ouais.
Pourquoi t'es là aujourd'hui?
Ah bah pour manifester mon mécontentement devant l'égalité des gens, on peut dire, parce que rien n'avance, il y a toujours autant de malheureux. Ici on est en crise sanitaire, ça crée encore des malheureux. Les malheureux d'avant, les sans-papiers, les chômeurs, les précaires, on s'en occupe pas. Et là aujourd'hui on va encore laisser crever une nouvelle vague qui va être énorme quand même. Donc c'est la continuité. On a un Macron qui fait rien, qui fait des annonces, on va donner un tel, et c'est de la foutaise, c'est toujours le même. Après, on a des patrons qui réclament, ils réclament. Je pense qu'il y a des priorités sur les gros patrons qui touchent des thunes à aider, parce qu'ils disent cette année, on va faire un moins 40, c'est la galère. Mais N-1, moins 40, ils disent pas que N-2, c'était plus 80, N-3, plus 60. Ils ont qu'à faire comme le peuple, mettre des économies. Nous, si on veut bouffer, il faut faire des économies à Noël. Ah bah eux, ils émerdent. Il y a des gens plus importants que ces gros capitalistes agressés. Il y a tous ces gens qui sont dehors. On est conscient que c'est pas pour le plaisir. Un samedi, ils peuvent faire autre chose. S'ils sont dans la rue, c'est qu'ils sont à la galère. Ils crèvent de faim, les mecs. On voit à la télé des gens qui ont bossé toute leur vie, qu'ils arrêtent leur carrière avec 700 balles. Et on leur dit, vous avez rien. Et après, on va diviser le peuple en disant, tiens, le 100 balles au RSA, on monte les plus pauvres. On monte les plus pauvres contre les pauvres. Et puis malheureusement, dans la misère, la nature humaine, on sait comment elle est. Hein, elle plonge. Alors que la solution, c'est comme aujourd'hui, être dans la rue, faire attendre. Parce qu'aujourd'hui, on fait attendre. C'est tout. Mais il arrivera un moment, vous savez très bien, qu'on ne fera plus attendre. On sera obligé d'engager des luttes plus dures. Moi, je suis favorable à la basson. J'assume, c'est Roland Blanpin qui le dit, c'est pas la CGT. Je suis favorable au délire. On y va, on leur casse la gueule. On leur casse la gueule à ces capitalistes. Point barre.
Aujourd'hui, la manifestation, on note de revendications contre la loi de sécurité globale,
ouais,
et contre la précarité pour l'emploi. C'est quoi le lien entre ces questions de sécurité et ces questions d'emploi?
Je vais prendre un exemple tout court. Croyons-nous que les jeunes qui foutent la merde aujourd'hui dans les banlieues, c'est pour le plaisir de foutre la merde, ou c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, on leur donne pas la possibilité de s'épanouir dans un travail? On rentre dans la précarité. Après, on a toutes les variantes de la précarité. La mauvaise alimentation, les gens qui vont crever parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir comme il faut. Après, il y a la précarité, ceux qui vont tomber dans la délinquance. Précarité, ceux qui vont devenir alcooliques. La précarité, elle est là, la précarité, elle s'est traduite comme ça. Après, c'est tout simple, on n'a jamais fait de miracle avec la pauvreté. Hein. La pauvreté, quand la faim, il faut bien qu'elle manifeste, et ça dérive surtout.
S'il devait y avoir une seule revendication pour ce mouvement social, pour vous, ça serait laquelle?
Alors, c'est une question vachement difficile, je ne suis pas politicien, je ne vais pas dire ça serait si.
Donc,
moi, il y a tellement de choses. Je te laisse le choix, tu es aussi compétent que moi, camarade, de trouver une formule. Aujourd'hui, c'est sortir, casser le système qu'on a mis en place. Et pas écouter Macron qui dit aux jeunes, on va faire chier, qui se met les flics à dos. C'est la panique tout partout. Les flics, ils font la gueule parce qu'ils ne sont pas soutenus. Bien que j'ai rien à branler, parce que quand ils sont soutenus, ils ne gênent pas pour casser les petits. Alors, c'est qu'à leur merde, Alliance, qui se démerde. Aujourd'hui, on est dans la précarité du peuple français, au plus bas échelle. Moi, je vois qu'il y a des mecs qui ont travaillé toute leur vie, à la fin, des salariés, des femmes et tout, à la fin de leur vie, à la carrière, de retraités, qu'est-ce qui se passe? Charles, 500 balles, 700 balles, et démerde-toi. C'est ça que je vois. Alors mettre un mot d'ordre aujourd'hui dans l'action, tout y est bon à prendre, tous les mots d'ordre, ils sont bons à prendre. Tout, et je reviens, je l'ai déjà dit, pourquoi s'intéresser? Il faut bien donner un terme à une manif. Mais tout est bon, on peut dire en lutte contre la précarité, contre l'inégalité, contre l'harcèlement au travail pour les femmes. Tout y est bon à prendre. Aujourd'hui, on a mis le thème, la précarité, la solidarité auprès des précaires et sans emploi. C'est un bon thème, il faut le faire. Mais tout. Pour moi, on peut m'appeler quand on veut, dire on va à Lille. Je m'inquiète même pas de savoir pourquoi. Je suis chez Gétis, il faut qu'on soit dans les rues pour faire attendre le mécontentement. Avant qu'on n'arrive plus à maîtriser la haine qui va s'installer dans le pays. Parce qu'elle est présente, la haine, quand même, non? Les gens aiment d'emmerde. Et de faire des défilés comme ça, et crier, claquer des pétards, c'est pas gentil. Mais y arriveront, c'est des claques dans la gueule qu'il va falloir distribuer.
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares. Des porcs armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course dans le caniveau du non-lieu, où un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Mille barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre, où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout. Des pierres et des cocktails balancés à genoux, ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre gonflés de noir et de propre, ni les horizons barrés par les corbeaux et les hyènes, ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogène, ni les gerbes fanées aux pieds des portraits assassinés, ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches usés par la chaîne, par le mépris et le temps, ni les larmes acides des mères, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière. Rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme, et le brasier crépite, et le brasier crépite, et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
Clairement, il va falloir réformer.
On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs.
C'est pas assez violent, tout simplement. Alors, c'est la société française.
Le droit de grève prévaut, c'est bien normal. La liberté de travailler, qu'en est-il?
Est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler?
Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité des Gilets jaunes sans se voir taxé comme ça de mépris classe.
Le monde est en train de changer. Alors, serez-vous capable de vous adapter?
Qui souffre le plus de la grève et des blocages? Le CAC 40 s'en moque. La bourse, elle monte.
Quand on regarde la réforme des retraites, c'est une réforme de gauche.
Oui, parce que les RTT, les 35 heures à l'hôpital ont désorganisé l'hôpital public.
Il y a eu de la torture, il y a eu tout ce que vous voulez, je ne le nie pas. On n'a rien fait de mal.
On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail.
Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
L'heure de le mettre, mercredi à 18h30 sur Radio Campus 106,6.
Georges Gastaud à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de Friedrich Engels.
Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Friedrich Engels. Engels, le compagnon de lutte, le compagnon de recherche théorique de Marx et le cofondateur de ce qu'on appelle quelquefois le marxisme d'une façon peut-être un peu restrictive. Engels d'ailleurs est complice de cette appellation car il était très modeste et il n'a pas voulu partager en fait la dénomination qui aurait désigné l'œuvre commune, celle de Marx et celle de lui-même. Mais bon, ce que je vais expliquer très brièvement dans cette vidéo, c'est que moi je joue sur le trait d'union, je suis pour le trait d'union Marx-Engels, et peut-être même, vous l'avez deviné, pour le trait d'union Marx-Engels-Lénine, le marxisme-léninisme. Et pour commencer, le marxisme-engelsisme, n'est-ce pas ? Alors c'est un peu provocateur, puisqu'effectivement je suis ici plus engelsien qu'Engels, qui se contentait du terme de marxisme. L'essentiel est de bien comprendre que les deux auteurs, Marx et Engels, sont indissociables. Je me suis beaucoup bagarré d'ailleurs, quand j'étais professeur de philo en activité, pour que, au baccalauréat, Engels soit inséré dans la liste des auteurs classiques du baccalauréat, pour qu'on puisse aussi donner des textes issus de son œuvre propre. Il y a des textes communs à Marx et Engels, comme le fameux Manifeste, comme l'idéologie allemande. Et puis il y a des textes, évidemment, qui sont signés uniquement de Marx ou uniquement d'Engels. Mais Engels étant un grand pédagogue, il était bien dommage qu'on ne puisse pas étudier ces textes en classe. Hein, et donc accéder ainsi au marxisme d'une manière large, commode et, je dirais, populaire. Alors la première des choses est de comprendre pourquoi nos marxologues, qui ne sont pas des engelsologues mais plutôt des engelsophobes, veulent tant dissocier, et ça date déjà de fort longtemps, Marx et Engels. Pourquoi ils veulent mettre un coin entre ces deux amis qui s'aimaient autant que Montaigne et la Boétie, ou que Castor et Pollux, si tant est que ces derniers aient existé. Et donc, la principale raison, évidemment, n'est pas à chercher d'un côté people. Hein. Ce qui fait qu'on veut détacher Marx d'Engels, ce sont d'une part des raisons politiques, d'autre part des raisons théoriques. Raisons politiques, parce qu'il faut couper Marx de la continuité qui a été la sienne de l'héritage que nous avons eu de lui à travers Engels, puis Lénine, faire comme si Marx était un peu, je dirais, comme Platon, comme Kant, comme Hegel, etc., c'est-à-dire des grands philosophes qui ont légué une œuvre très importante, mais qui n'ont pas effectivement créé un grand mouvement historique, le marxisme, hein, comme celui que nous défendons encore aujourd'hui, pour des raisons d'avenir, pas seulement pour des raisons de passé. Donc on veut couper, en quelque sorte, ce que j'appellerais la tradition du marxisme. Et dans tradition, il y a transmission. Et dans transmission, il y a l'idée d'une continuité, d'une cumulation, d'une expérience qui se transmet et qui va vers l'avenir. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, toujours d'ordre politique, c'est qu'effectivement, en coupant Marx d'Engels, on coupe Marx de ce grand pédagogue qu'était Engels, hein, et donc Marx s'étant spécialisé au fur et à mesure que sa vie avançait dans l'économie et dans l'économie politique. Il a écrit des œuvres qui sont de caractère scientifique au sens le plus dur du mot, c'est un peu difficile à lire, le Capital n'est pas toujours aisé à lire, alors que je vous conseille à tous vivement, si vous ne l'avez fait, de lire les brochures d'Engels, Socialisme utopique et Socialisme scientifique, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, l'anti-During et d'autres œuvres comme celle-ci, comme celle que je viens de nommer. Donc voilà, on veut couper Marx, au fond, si vous voulez, de sa traduction militante communiste populaire, même si Marx a lui aussi, avec Engels d'ailleurs, écrit des textes brillants et qui s'adressaient directement aux militants comme le manifeste du Parti communiste. Ensuite, il y a des raisons théoriques. Et les raisons théoriques, c'est que certains milieux marxologiques de l'université, notamment, veulent bien de Marx, mais pas de Marx-Engels, et surtout pas de Marx-Engels-Lénine. On veut bien d'un Marx, en gros, critique de la société capitaliste, mais on ne veut pas d'un Marx qui serait porteur du communisme révolutionnaire, de la dictature du prolétariat, de la révolution socialiste, de tout ce qui va advenir concrètement avec Lénine et le socialisme réel, hein, même si ensuite l'histoire aura un certain nombre de rebonds plus ou moins inattendus. Mais bon, on veut le couper de cela. Et puis on veut le couper aussi, bien sûr, des apports théoriques propres à Engels. Même si ces apports théoriques propres d'Engels ont toujours été concertés avec Marx, puisque tant qu'ils ont été tous les deux vivants, Marx et Engels n'ont cessé d'échanger, de s'écrire, de se parler et de se donner leur feu vert mutuel quand ils éditaient quelque chose. Et quels sont ces apports? Eh bien, le premier apport, c'est la philosophie marxiste, car aussi bizarre que ce soit, il y a des gens qui se disent marxistes et qui ont passé leur temps à l'université à dire que la philosophie marxiste n'existait pas. On ne saurait rêver d'ennemis plus tendres, plus souples, de la part des anti-marxistes, puisqu'effectivement, ce sont certains marxistes eux-mêmes qui vous disent que la philo-marxiste n'existe pas. Pourquoi dès lors l'enseigner à l'université? Et puis, on veut couper donc aussi Marx du matérialisme dialectique, c'est-à-dire du contenu même de cette philosophie marxiste. Il n'y a pas simplement la philosophie marxiste. Elle dit quelque chose, la philosophie marxiste, et elle dit quelque chose qui est caractérisé principalement, pas seulement, mais principalement par ces deux mots, matérialisme et dialectique. Alors si déjà on enlève la philosophie marxiste, et qu'ensuite de la philosophie marxiste on retire le matérialisme dialectique, vous comprenez qu'on fait tomber tout un pan du marxisme, qui ensuite, effectivement, se réduit à quoi? Se réduit à l'économie. Marx est un grand économiste, nous dira-t-on. Encore qu'on expliquera aux économistes dans leur fac, en faisant la manœuvre idéologique inverse, que Marx est un grand philosophe, mais que c'est un piètre économiste. Comme ça, eh bien, c'est un grand économiste pour les philosophes, c'est un grand philosophe pour les économistes, et de cette façon-là, il est neutralisé aussi bien dans les facs de philo que dans les facs d'éco. Tout va bien. Bon, donc, on veut aussi, en coupant Marx d'Engels, couper le marxisme, au sens étroit du terme, l'œuvre de Marx en tant que telle, de son versant anthropologique, car Engels, c'est l'homme qui a écrit notamment l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Et donc, qui, sans doute, d'une façon très accessible, avec naturellement les documents de l'époque qui, pour une large part, sont évidemment périmés, qu'il faudrait aujourd'hui retravailler sur des bases plus nourries, plus instruites, mais qui a donc fait le lien entre l'économie politique marxiste et le champ anthropologique, ce qu'on appellerait aujourd'hui les questions sociales, socio-économiques d'un côté, et les questions sociétales. Tout ça est déjà chez Engels. Alors bigre, si l'on enlève Engels dans le panorama du marxisme, eh bien on perd beaucoup, y compris par rapport à des questions tout à fait actuelles. Voilà. Et puis Engels, eh bien Marx et la famille de Marx l'appelaient affectueusement quand il venait dîner à la maison, le général, Herr General. Pourquoi? Bien parce que d'abord Engels avait combattu et avait commandé d'ailleurs des troupes pendant la révolution allemande de 1848, mais aussi et surtout parce que Engels s'était en quelque sorte spécialisé dans ce couple d'amis qui étaient Marx et Engels, dans les questions militaires. Et pour une large part, eh bien, la doctrine militaire du marxisme est héritée d'Engels, qui était un grand lecteur notamment du théoricien de la guerre, du théoricien allemand de la guerre, Karl von Clausewitz. Et si l'on enlève la doctrine marxiste de la guerre, la doctrine engelsienne en réalité, pour une large part, on fait tomber la doctrine marxiste de la guerre, la doctrine léniniste aussi, on enlève de l'appréhension de la guerre la question de la lutte des classes, on dépolitise la guerre, hein, et de même, en sens inverse, eh bien, on ne montre pas que la lutte des classes elle-même comporte toujours, même si c'est de façon plus ou moins larvée, quelquefois, et quelquefois de façon éclatante, une dimension militaire. Ouais. Une guerre de classe, comme dirait le milliardaire américain Warren Buffett, qui lui ne parle pas de lutte de classe, mais carrément de guerre de classe, en disant qu'actuellement sa classe, la classe des riches, est en train de la gagner. Donc, je résume. Si on enlève Engels dans le panorama, dans le paysage du marxisme, on fait tomber la philosophie marxiste pour une grande part, même si, bien sûr, Marx aussi a fait de la philosophie marxiste, bien évidemment, c'était un grand philosophe. On fait tomber le matérialisme dialectique, on fait tomber la dialectique de la nature, on fait tomber l'anthropologie marxiste, et l'on fait tomber en grande partie la doctrine marxiste, marx-engelsienne, si j'ose dire, de la guerre. Et on en a diablement besoin, justement, de cette doctrine, non pas pour faire la guerre, mais pour la combattre. Alors, donc, on va maintenant revenir un peu sur tout ça. La première des choses, c'est de constater que cette tentative permanente de dissocier Marx et Engels, post-mortem, a toujours échoué. Alors elle a toujours échoué parce que les faits sont têtus et parce qu'il est difficile de les dissocier. Ils ne cessent de s'écrire, ils ne cessent de se corriger l'un l'autre, ils ne cessent de s'amender, de se faire progresser l'un l'autre, ce sont des amis, ils se soutiennent, et le plus riche des deux Engels se soutient le plus pauvre Marx, et cela de façon sans discontinuer. Ils sont toujours sur la même ligne quand il s'agit de questions politiques, qu'ils discutent toujours longuement entre eux, et sur le plan donc théorique, ils se divisent le travail. Ce n'est pas parce que Engels écrit plutôt à la fin de sa vie des textes philosophiques et Marx des textes économiques que Marx ne s'intéresse plus à la philo, alors que Marx au départ est un philosophe, et qu'Engels ne s'intéresse plus à l'économie, alors que paradoxalement au départ, c'est Engels qui attire l'attention de Marx sur l'économie dans un livre que tout le monde peut lire qui s'appelle « La situation de la classe laborieuse en Angleterre ». Un texte terrible qui montre combien les ouvriers étaient exploités à Manchester. Engels connaissait bien la question. C'est, tout ça est montré dans le film « Le jeune Marx » que vous pouvez peut-être voir encore ici et là et qui est dans l'ensemble tout à fait honnête. Et donc, ça ne signifie pas que l'un s'occupait d'une chose et l'autre pas du tout, et l'autre que s'en désintéressait, mais qu'il s'était partagé le travail, parce qu'on ne peut pas tout faire, tout simplement. C'est la division humaine du travail. C'est d'ailleurs fort sympathique que les fondateurs du communisme scientifique et prolétarien, ce qu'on appelle le marxisme, que ces fondateurs aient eu eux-mêmes travaillé de façon collective. Hein, dans l'histoire de la philosophie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas si fréquemment. Alors, pourquoi est-ce que aussi l'échec est toujours au bout du chemin ? Eh bien, parce que quand on veut présenter Engels comme une espèce, comment dirais-je, de second couteau de Marx, de besogneux relecteur des manuscrits de Marx, de mécène ou de sponsor obscur, en quelque sorte, de Marx, si vous voulez, et que l'on casse ainsi la véritable personnalité d'Engels, on ne peut que se heurter au fait. Engels était un homme très brillant. Alors, sa modestie lui a dû, en un sens, puisqu'il dit lui-même dans un texte que Marx était un génie alors que lui-même n'était qu'un talent. Bon, mais enfin, j'aimerais bien avoir le talent d'Engels, et je crois que si tout le monde avait le talent d'Engels, nous serions nombreux à être des génies, si vous voulez. Et le talent d'Engels, eh bien, il se marque à des choses tout à fait extraordinaires, notamment Engels parlait ou maîtrisait jusqu'à 12 langues à la fin de sa vie. Hein. Engels lisait tout ce qui se publiait de neuf en matière de mathématiques, surtout, mais surtout, Marx n'était plus mathématicien que lui, mais surtout de physique, de chimie, de biologie, d'anthropologie, enfin bref, donc, ses livres témoignent effectivement que c'était un pionnier dans tous les domaines, un homme véritablement encyclopédique, un digne descendant, si vous voulez, de Diderot et des encyclopédistes matérialistes français, que d'ailleurs Engels et Marx admiraient énormément. Hein. Et puis aussi parce que, tout simplement, Engels est original, et dit des choses très originales sur la famille, sur l'État, sur les questions de la guerre et de la paix, et bien sûr, j'y reviendrai pour finir, sur la question de la dialectique de la nature. Bon, voilà, donc, et puis en fait, aussi d'un point de vue plus pratique, on ne peut pas dissocier Marx et Engels, parce qu'ils ont toujours été du même côté de la barricade, chaque fois que des problèmes se sont posés dans le mouvement communiste naissant, puis dans le mouvement communiste se développant, Marx ayant créé pour l'essentiel la première internationale, dite Association internationale des travailleurs, Engels ayant joué un grand rôle dans la création de la seconde internationale, dont la déviation est postérieure à sa mort. Lorsque Lénine, au début du XXe siècle, si vous voulez, parle de la Seconde Internationale et de ses théoriciens, notamment de Kautsky, il en parle avec respect. La dérive va se faire petit à petit jusqu'à la rupture fondamentale qui sera celle de la guerre de 14 ou la Seconde Internationale, entraînée par des théoriciens révisionnistes, approuvera l'Union sacrée du côté allemand, l'Union sacrée du côté français, donc ça nécessitera la création de la troisième internationale, celle de Lénine. Voilà, donc, maintenant je voudrais finir sur la question peut-être la plus litigieuse, celle de la dialectique de la nature, du matérialisme dialectique, de l'ontologie matérialiste. beaucoup de marxistes, qu'on peut respecter par ailleurs, qui font des travaux intéressants dans le domaine qui est le leur, hein, si vous voulez, il ne s'agit pas ici de rabaisser les gens et leur apport, réduisent Marx à un économiste ou, à la grande rigueur, à un anthropologue. À l'extrême, extrême grande rigueur, si je puis dire, sans crainte de me contredire, à une sorte, comment dire, de socio-économiste anthropologiste, quoi. Et ils ne veulent pas entendre parler, au fond, de cette barbare dialectique de la nature que l'on trouve chez Engels et qui a donné le titre de l'un de ses ouvrages. Effectivement, Engels, si vous voulez, dans cette dialectique de la nature, a montré que tout dans la nature, que la nature elle-même ne fonctionne pas comme il le dit de façon métaphysique, mais de façon dialectique, autrement dit que dans la nature, on retrouve la contradiction et les effets de la contradiction qu'on trouve déjà dans l'histoire et que Marx a longuement montré, après Hegel, dans l'histoire. On la trouve aussi dans la nature. On la trouve dans les phénomènes physiques, dans les phénomènes chimiques, dans les phénomènes cosmologiques, dans les phénomènes biologiques. Et du même coup, on la trouve dans le domaine de l'évolution même des choses. Et donc il y a un grand effort de la part d'Engels et de Marx aussi, et ça ne se fait pas dans le dos de Marx, tout ça, bien au contraire, pour articuler la théorie de l'évolution au sens très large, au sens où il y a une évolution cosmologique, par exemple, cosmique. Il est question de cosmologie, de cosmogonie dans la dialectique de la nature, dans le domaine de la physique, dans le domaine de la chimie et dans le domaine de la biochimie. Engels est un des pionniers de ceux qui vont dire qu'il faut trouver le moyen d'articuler la chimie et la biologie pour repérer comment s'est formé l'être vivant et comment l'évolution de l'être inanimé, si vous voulez, physico-chimique, a pu donner naissance à l'évolution proprement dite au sens étroit. L'évolution biologique, l'évolution des espèces, Marx et Engels, tous les deux, avec des nuances sur certains points, admiraient Darwin, hein, leur contemporain. Voilà. Alors, il me semble que tout ça, c'est tout à fait majeur. Ça serait stupide de la part des communistes, des progressistes modernes, que de se priver de cet apport, d'un point de vue théorique d'abord, d'un point de vue pratique ensuite, d'un point de vue théorique d'abord, parce que si vous voulez, sans la dialectique de la nature, on ne peut pas comprendre le matérialisme historique, c'est-à-dire l'idée que dans l'histoire, eh bien, les phénomènes sont déterminés par le mode de production et par la dialectique, par le choc, si vous voulez, pour le dire vite, des rapports de production, appelons-les comme ça, des rapports de classe, pour simplifier, et des forces productives, c'est-à-dire l'évolution des techniques, l'évolution des outils, de l'outillage et de la force de travail qui va avec. Hein. Donc, bon, le marxisme nous dit que les hommes, si vous voulez, deviennent proprement humains lorsqu'ils commencent à produire leurs moyens d'existence et que cette production des moyens d'existence, en gros les outils au sens large, pas seulement les outils matériels, mais par exemple le langage, si vous voulez, les langages plutôt, tout ce qui d'une façon ou d'une autre se transmet par héritage, constitue la culture, va de génération en génération, peut s'amplifier et par conséquent forme la base matérielle de l'histoire, hein, comme tous ces objets qui m'entourent dans une pièce comme celle où je me trouve, Il y a des vitres, il y a un plafond, il y a un plancher, il y a des meubles, etc. Tout ça, ça ne pousse pas dans les arbres. Il a fallu que les hommes les fabriquent. Hein. Et donc tout cet héritage, si vous voulez, qui est le socle matériel de l'histoire, et pour la propriété duquel se battent les classes dominantes voulant conserver la propriété des outils, des moyens de production, les classes dominées voulant devenir maîtresses de ces moyens de production, et à partir de là, maîtresses de leur propre destinée, maîtresses de l'histoire, de la base, du socle même de l'histoire. Et pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Pourquoi Marx et Engels ont-ils eu cette lubie apparente là, de mettre les phénomènes économiques au centre de leur focale, si l'on peut dire, de leur focale méthodologique ? Nullement, parce que ils auraient été spécialement attirés par l'économie. Au départ, Marx est un jeune philosophe et il est admiratif surtout de Hegel. Hegel, c'est avant tout le concept, les catégories, enfin bref, donc tout ce qui est du domaine de l'esprit, en apparence. En réalité, c'est parce que, comme ils le disent tous les deux dans ce texte qu'ils ont co-signé, l'idéologie allemande, cette production des moyens d'existence, elle est une conséquence de l'évolution de l'ancêtre humain, de l'ancêtre de l'homme. La citation exacte est la suivante. On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce qu'on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux quand ils commencent à produire leurs moyens d'existence, pas en avant, qui est la conséquence de leur organisation corporelle. En produisant leurs moyens de production, les hommes produisent indirectement leur vie matérielle elle-même. Fin de citation. Vous voyez bien, le mot important ici, c'est pas en avant. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait une évolution du corps, des primates, les ancêtres de l'homme, pour que, effectivement, l'homme soit disposé, par sa complexion corporelle, pour employer le terme de Marx et d'Engels, à être capable de produire, de conserver, de transmettre, d'améliorer, etc., toutes sortes d'outils. Et à partir de là, de sortir de simplement l'évolution des espèces qui se fait fort lentement, tout au moins à l'échelle de l'histoire humaine, et d'entrer dans ce domaine de changements relativement rapides qu'on appelle les changements historiques. Voilà, donc ici nous sommes dans une véritable dialectique, un seuil, un saut qualitatif. On passe de l'évolution naturelle à l'histoire, proprement dite, par cette espèce de rupture qui pourtant vient bien de l'évolution, et qui est la production des moyens de production, la production des outils, si vous voulez, pour le dire vite, bien que le mot outil, aujourd'hui, est un sens un peu trop restrictif. Vous voyez, mais si vous ne pouvez pas comprendre la société moderne, si vous ne savez pas qu'à l'arrière-plan, par exemple, il y a l'ordinateur, vous ne pouvez pas comprendre la société du 19e siècle si vous ignorez qu'à l'arrière-plan, il y a la machine à vapeur. Je dis ça de façon très simplificatrice. Voilà. Eh bien, vous le voyez bien, le matérialisme historique est donc la centralité du mode de production, et donc la centralité derrière, c'est politiquement important, du monde du travail de la classe ouvrière, eh bien ça renvoie à l'évolution des espèces, donc à une évolution naturelle, laquelle elle-même s'enchasse à son tour. Le texte de l'idéologie allemande en 1845, premier grand texte marxiste, proprement marxiste, c'est-à-dire qu'avant il y avait des textes très intéressants, intelligents, brillants, de Marx, par exemple, mais qui n'était pas encore pleinement matérialiste. Et bien, dans ce premier texte de l'idéologie allemande, déjà, il est question, de façon implicite, de ce que Engels appellera par la suite la dialectique de la nature. Et pourquoi dialectique ? Et bien, parce que la nature, en évoluant, si vous voulez, arrive à un seuil qui fait qu'elle se nie elle-même, puisque l'évolution produit un être qui, ensuite, a moins besoin qu'avant, je ne dis pas plus besoin du tout, mais moins besoin qu'avant d'une pure évolution biologique qui va avant tout changer sur le plan social, économique et historique, qui va accumuler ces changements en dehors de lui-même, dans des objets, dans des langages, dans des techniques, etc., etc. Tout ce qui va permettre effectivement à l'être humain d'accumuler à l'extérieur de lui. Et en ce sens, de nier la nature. La culture nie bien la nature, l'agriculture ni bien la nature, il faut bien que de façon artificielle, on travaille les sols et qu'on fasse pousser des choses qui n'y auraient pas poussé si on ne les y avait pas mises. Même si, bien sûr, il faut le faire toujours en tenant compte de la nature. Mais c'est tout de même une négation. Et une négation de quoi? Eh bien, c'est pas la culture, la méchante, comme le croient certains écolos un peu naïfs, là, qui vient nier de l'extérieur la nature. C'est la nature qui se nie elle-même, parce que c'est bien la nature qui a produit l'homme. C'est bien la nature qui produit un être capable de culture. Alors, voilà, tout ça est extrêmement important, et d'un point de vue pratique et politique aussi. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui penser l'écologie, non pas comme un retour en arrière, un déni des forces productives, un déni de la science, un déni de la technique, etc., mais bel et bien comme un progrès, comme une avancée, eh bien, il faut aussi comprendre que la culture, parvenue à un certain seuil, comme aujourd'hui, elle a enserré dans ses mailles toute la Terre, toute la biosphère, et que l'homme est partout, du pôle à l'équateur, etc., eh bien, cette culture risque de se détruire elle-même. Et d'autant plus qu'elle est aux mains des capitalistes, et non pas aux mains de l'ensemble de la société, et qu'elle n'est pas planifiée, mais qu'elle est livrée à l'anarchique économie de marché, ouverte sur le monde, où la concurrence est libre et non faussée. Je viens de citer le traité de Maastricht. Hein. Et donc voilà, nous avons un double mouvement à faire. Premièrement, il faut que la culture, en quelque sorte, se niant elle-même, si l'on peut dire, réaffirme la nature, mais pas en revenant à la nature initiale, ce qui serait d'ailleurs impossible, mais en assumant dans la culture de la nature. On appellerait ça l'écologie, si vous voulez, mais pas l'écologie, évidemment, au sens des deep ecologists, et des gens qui veulent revenir à la société, à une nature initiale où on marche à quatre pattes, en quelque sorte. Hein. Je cite implicitement Jean-Jacques Rousseau. Et de notre côté, au sein même de la société, eh bien, il faut que la culture nie la nature. Car dans une société capitaliste, la nature se venge. Elle est niée par la société capitaliste qui la détruit, qui la salope, qui la gaspille de mille façons. Mais elle-même, elle se venge, si l'on peut dire, car les rapports entre les hommes sont des rapports sauvages, barbares, de plus en plus barbares. Le capitalisme, par sa dynamique propre, conduit, et c'est une magnifique phrase d'Engels, terrible en même temps, à la barbarie. Socialisme ou barbarie, c'est une formulation d'Engels qui sera ensuite reprise par Rosa Luxembourg. Et il faut donc que cette nature dans la société soit combattue et soit surmontée. C'est une espèce d'entrecroisement, si l'on peut dire. Voilà, en quelque sorte, la nature donnant la culture qui la nie va donner, pour finir, une culture qui, ou bien se contrôlera elle-même, refera sa place à la nature, donnera à la nature une place qui sera une place cultivée, hein, approchée par la science, approchée par les techniques, y compris non pas pour massacrer la nature, mais là tout au contraire, pour la reproduire, et pour la reproduire de façon consciente. Autrement dit, la tâche de l'économie communiste future, ça sera aussi, pas seulement de produire des objets, mais aussi de reproduire, aussi scientifiquement et techniquement que possible, l'air, l'eau, la terre et l'énergie, les quatre éléments de l'Antiquité. Et inversement, effectivement, dans la nature, eh bien, la société doit triompher des aspects purement sauvages, naturels et encore animaux, qui sont les caractéristiques de la société capitaliste. Une société communiste, au fond, c'est une société pleinement civilisée, pleinement humaine, pleinement historique. Marx dit que dans une société communiste, on passe enfin de la préhistoire à l'histoire. Pour l'instant, on est encore tous dans la préhistoire. Voilà. Un dernier mot pour parler de la théorie engelsienne de la guerre. Donc Engels ne cesse de dire que il reprend la formule de Clausewitz, hein, le grand auteur classique sur la guerre, prussien, général prussien, qui disait « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Eh bien, qu'à cela ne tienne, dit Engels, puisque la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, eh bien, la guerre est la continuation de la lutte de classe par d'autres moyens, puisque quel est le contenu profond de la politique? C'est la lutte de classe. Donc voilà, la lutte de classe est le secret de la guerre, et derrière toute guerre, il faut savoir quelle est la classe qui l'amène. Une guerre juste est une guerre, en gros, menée pour la libération des classes dominées, et une guerre injuste, une guerre qui est menée pour le maintien de l'exploitation de la domination. Voilà, si vous voulez, en grand terme. Or, dans la dernière période, surtout à l'époque de Gorbatchev, de la mutation du PCF, de Pierre Juquin, pour les anciens qui s'en souviennent, on nous a dit que cette doctrine d'Engels était dépassée, et qu'à notre époque, comme on peut se détruire à coups de bombe atomique, la guerre ne peut plus être la continuation de la politique par d'autres moyens, parce que comme elle ne ferait ni vainqueur ni vaincu, eh bien, elle n'aurait aucune signification politique. Mon œil, elle a une signification politique, et c'est la contre-révolution. Quand on est dans une situation comme celle de l'impérialisme contemporain, qui peut détruire l'humanité, et qui, avec des gens comme Trump ou comme bien d'autres, effectivement, prend les décisions les plus irresponsables qui soient, pas seulement militairement, mais aussi écologiquement, économiquement, viralement, si l'on peut dire, sanitairement, hein, eh bien, on peut craindre effectivement l'anéantissement de l'humanité. Ça ne signifie pas que les capitalistes ont envie de s'anéantir, ils ont envie d'anéantir leurs adversaires, bien sûr, mais ils pourraient, en anéantissant leurs adversaires, s'anéantir eux-mêmes. La preuve, c'est que Trump, qui nous disait que le Covid, c'était de la rigolade, l'a attrapé lui-même, et que comme Boris Johnson, il en faillit en mourir. Hein. Il n'y a qu'une seule planète, et même les dominants, à force de la saloper, risquent fort d'y passer eux-mêmes. Mais est-ce que ça dépolitise pour autant la question de la guerre et de la paix ? Nullement. Nullement. Parce que ce chantage permanent à l'extermination de l'humanité, hein, que mène l'impérialisme américain, en particulier depuis Hiroshima, depuis Nagasaki, hein, on a les moyens de faire sauter la planète, si vous n'êtes pas sage, on le fera. Hein. Eh bien, c'est profondément politique, c'est une arme terrible. Quoi. Ça a joué un rôle très important, d'ailleurs, dans la déstabilisation de l'Union soviétique, qui était chargée, au fond, de défendre à elle seule, à un certain moment, la paix du monde contre des fous furieux à la Reagan, qui n'arrêtaient pas de parler dans leur discours de l'Armageddon, de la bataille ultime entre les bons et les méchants, et autres délires d'inspiration biblique, je dirais, mal digérés. Alors, voilà, aujourd'hui, cet exterminisme, il a profondément marché, politiquement parlant. Et son résultat a été bel et bien la contre-révolution, puisque les dirigeants soviétiques de l'époque gorbatchevienne, ayant accepté le chantage, ayant marché dans le chantage, parce qu'ils étaient eux-mêmes opportunistes, capitulards, liquidateurs, et c'est une autre histoire que je ne peux pas développer ici, parce qu'ils n'étaient plus marxistes, engelsiens, ils avaient rejeté la doctrine de la guerre. Eux aussi disaient que, à notre époque, la guerre et la paix, c'est plus une question politique. Ils l'ont dit et écrit. Hein. Gorbatchev n'arrête pas d'expliquer ça. Que la guerre n'est plus politique à notre époque. Elle peut exterminer tout le monde, donc elle n'a plus de sens politique. Eh bien, ces gens-là, se mettant ensemble, ont détruit l'Union soviétique. Ont détruit ce rempart de la paix qui était le camp socialiste. Et donc, effectivement, aujourd'hui, cette paix, entre guillemets, qui a résulté de la fin de la guerre froide, est une paix drôlement chaude. Une paix qui peut à tout moment péter, si je puis dire, et faire péter la planète. Hein. Et donc à partir de là, il faut bien comprendre que la doctrine engelsienne de la guerre est toujours la continuation de la politique par d'autres moyens, et la guerre d'extermination est la continuation de la politique exterministe du capitalisme par d'autres moyens, et par conséquent, la contre-révolution que nous voyons aujourd'hui triompher provisoirement, est elle-même une continuité de l'exterminisme. Tout cela nous est nécessaire. Tout cela nous est nécessaire pour combattre l'exterminisme, pour combattre la contre-révolution, pour défendre une véritable écologie qui soit progressiste et communiste, pour penser en grand l'économie communiste future, qui ne sera pas seulement éco-compatible, qui n'aura pas seulement à être compatible avec l'environnement, mais qui devra, d'une certaine façon, reproduire de façon scientifique, de façon, j'allais dire, ingénierie, en quelque sorte, l'environnement qui a été détruit de façon irresponsable pendant des millénaires par essentiellement les classes dominantes, et surtout par la classe capitaliste dans la dernière période. Se priver d'Engels, ça serait donc plus que simplement briser rétrospectivement le couple d'amis indissociable que formaient Marx et Engels, et bien plus que ça, c'est se priver de la véritable compréhension du marxisme dans son ensemble et de son utilité, de son actualité brûlante pour les luttes d'aujourd'hui. Un dernier mot, je ne voudrais pas parler d'Engels et de Marx sans parler du troisième fondateur du marxisme qui, à mes yeux, est une fondatrice, qui est Mary Burns. Mary Burns, cette ouvrière irlandaise qui fut longtemps la compagne d'Engels, et qui, dans une large mesure, l'a initié aux réalités de la lutte des classes, aux réalités du prolétariat. Il y a des gens qui écrivent, qui signent, et bon, c'est Marx et Engels, et puis il y a un arrière-plan. Et cet arrière-plan, c'est la classe ouvrière combattante, et parmi la classe ouvrière combattante, eh bien, une Irlandaise, c'est-à-dire une opprimée par l'impérialisme anglais, et une femme, naturellement. Donc, si vous voulez, bon. Alors, je défends donc toujours le trait d'union, Marx-Engels, que certains voudraient supprimer, bon, et donc le marx-engelsisme, si vous voulez, après tout un peu de provoque, hein. Et puis pourquoi pas le marx-engels, mais ça serait difficile à dire, bernisme, hein, je dirais, et puis bien sûr et surtout le marxisme-léninisme, si on veut simplifier un petit peu les choses, parce que vous comprenez bien que si on veut faire sauter le chaînon que Engels est entre Marx et Engels, c'est aussi pour couper Marx de Lénine, pour couper les révolutions de 1848 et de la Commune de la Révolution d'Octobre, et pour faire un grand néant, un grand vide entre notre marxisme actuel et le marxisme du passé. Or, le marxisme, l'engelsisme, le léninisme du futur, si vous voulez, celui que nous allons construire, de nouvelles générations, si vous voulez, ne sera que néant, que babil, que rabâchage du socialisme utopique, si on laisse perdre le fil rouge qui nous mène aux fondateurs du marxisme et à travers eux, à la classe ouvrière, à l'élaboration scientifique et au matérialisme dialectique, à la dialectique de la nature qu'ils ont tenté de fonder. Je ne dis pas qu'ils ont tout fait. Ils ont posé des piliers, ils ont posé plus exactement des fondations. Bon, c'est à nous de continuer, dans l'esprit que je disais tout à l'heure à propos de la culture, à parachever ce travail de titan, qui n'est pas fini. Il n'y a aucun dogmatisme à dire ça. C'est seulement les gens qui ont peur, effectivement, de construire du nouveau, qui veulent détruire les fondations de la maison, parce que comme ça, on recommence toujours à zéro, et on est certain de ne jamais avancer. Moi, je veux avancer, je veux gagner, je veux vaincre, et donc je dis, de façon un peu ironique, bien sûr, hein, je dis, honorons la mémoire de Friedrich Engels, et surtout, lisons-le. Merci beaucoup.
Debout, les damnés de la terre. Debout, les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère. C'est l'éruption de la faim et du passé. Faisons table rase pour l'esclave. Debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. Bidou-bidou-dou, c'est la lutte finale. Coupons-nous et demain l'international sera le genre humain. Bidou-bidou-dou, c'est la lutte finale. Coupons-nous et demain l'international National, Chira, les gens humains.
Il avait de belles moustaches, le sourcil noir, le regard clair, un peu bourru, un peu bravache. Pour nous, c'était presque un père. Joli cœur sous une peau de vache, grand cœur sans en avoir l'air. Révolutionnaire sans tâche, oui, Staline est exemplaire. C'est la lutte finale.
Ok, vive la rose.
Coupons-nous et demain.
Ok, vive la rose.
Car l'international,
vive la rose et le lilas,
sera le genre humain.
Vive la rose et le jasmin.
Ouvriers et paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. Logéfira, logéraille. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, à deux ces matins disparaissent,
le soleil brillera toujours, brille toujours, brille toujours. Oh, oh.
Oh, c'est la lune de Vila. De Vila. Oh, mon coupon. Et du demain.
Je le mange de
l'international. Sera
le genre
humain.
Oui, sera.
Oh, c'est la lune de Vila.
De Vila.
Oh, mon coupon. Et du demain.
Je le mange de Vila.
L'international. Sera le genre
humain.